On est en prise un petit peu avec l'actualité, puisqu'il y a cette canicule, donc on nous dit c'est une des conséquences de ce fameux changement climatique et réchauffement climatique qui touche la planète, avec toutes les émissions de CO2 en particulier. Et donc on entend beaucoup dire que pour justement émettre moins de CO2, il suffit de rouler en voiture électrique et on va sauver la planète comme ça. Donc on va voir si c'est vrai. Et puis il y a aussi cette actualité des gilets jaunes qui a démarré, rappelez-vous, sur le prix du combustible qu'on met dans nos voitures, souvent de l'essence ou du diesel. Et alors c'est de la même manière, il a été dit qu'avec la voiture électrique, c'est tellement pas cher l'électricité que ça peut servir de biais pour justement alléger la facture énergétique des gens qui doivent se déplacer. Et je pense que d'ores et déjà, avec les augmentations nombreuses et violentes du prix de l'électricité que nous subissons, d'ores et déjà, cet argument, on peut déjà se douter qu'il n'est pas tellement valable. Et c'est comme ça que je suis venu à m'intéresser à la voiture électrique. C'est quand j'entendais dire que non seulement la voiture électrique, globalement, elle est propre et écolo, mais alors surtout en France, puisqu'elle est rechargée au nucléaire. Elle est encore plus écolo, encore plus propre, encore plus verte. Comme si l'électricité nucléaire était quelque chose de propre. Donc ça m'a évidemment interpellé, puisque j'ai pas besoin de m'étendre sur ça. Le nucléaire, vous savez, les déchets radioactifs, les catastrophes, on a Fukushima qui a commencé en 2011, qui a commencé. Ça fait 8 ans maintenant et la catastrophe continue. Tous les jours, les réacteurs, les cœurs en fusion sont arrosés continuellement, sans quoi la réaction redémarrerait immédiatement et créerait une surcatastrophe. Et donc, il y a des quantités astronomiques d'eau radioactive qui est stockée, pompée, dont une partie s'écoule dans l'océan Pacifique. Donc, c'est une catastrophe en continu, hein. Donc, le nucléaire, c'est ça. C'est aussi, vous savez, les centrales nucléaires rejettent dans l'environnement et dans les rivières en particulier, puisque vous êtes toujours une rivière qui passe près d'une centrale nucléaire, ou parfois elles sont en bord de mer, pour pomper l'eau, pour refroidir. Et donc cette rivière, elle sert aussi à ce que la centrale rejette des quantités extrêmement importantes de produits chimiques, de produits radioactifs, mais de produits chimiques aussi. Donc c'est beaucoup, beaucoup de pollution, de saleté qui sont rejetées par les centrales nucléaires. Et donc quand on nous dit que la voiture électrique, elle est encore plus propre en France, puisque 80% de notre électricité est nucléaire, évidemment ça m'a fait sursauter et j'ai commencé à le contester vivement. Et puis en tirant la ficelle, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a pas, concernant la voiture électrique, que la question de l'électricité utilisée pour la recharge qui est importante. Le premier, le plus véhément propagandiste de la voiture électrique, c'est Carlos Ghosn, qui jusqu'à il y a peu était donc PDG de Renault-Nissan, et donc qui depuis plusieurs années est vraiment été le fer de lance. Il disait voilà, l'avenir de l'automobile, c'est la voiture électrique, en vendant beaucoup de voitures électriques avec un argument imparable, c'est zéro CO2. Puisque vous le savez, le principal gaz à effet de serre qui fait qu'on a de plus en plus chaud, c'est le CO2. Et donc, quand on n'émet pas de CO2, on ne contribue pas à ce réchauffement climatique. Et la voiture électrique, puisqu'elle n'a pas de pot d'échappement, c'est zéro CO2. Et donc voilà, un bel argument de vente. Voilà, dans la propagande, il y en a partout. Donc là, c'est Citelium, c'est une filiale d'EDF. Hein. Et tout le monde, toutes les grandes entreprises s'y mettent. Ça, c'est les blue cars, les voitures de Monsieur Bolloré. Alors pour ceux qui le connaissent, ceux qui le connaissent pas, la famille Bolloré, c'est des pillards. Ils ont pillé l'Afrique depuis des décennies. Ils ont mis la main sur des quantités astronomiques de matières premières, de réseaux ferrés, et donc ils se servent abondamment en Afrique. Ils ont fait leur fortune, en volant tout ça littéralement aux Africains. Et depuis quelques années, Monsieur Bolloré s'est mis en tête de faire le bonheur non pas des Africains mais des Occidentaux en développant des voitures électriques en libre service, enfin en partage. Il y a quelques jours, c'est le 12 juin dernier, donc c'est tout récent, nos chers députés ont voté la fin des véhicules thermiques, c'est-à-dire les véhicules essence ou diesel, la fin pour 2040. Alors 2040 pour nous, surtout quand on n'est plus tout jeune, même quand on est jeune, 2040 ça paraît très loin, mais du point de vue industriel, c'est demain matin, quoi. Donc déjà, plus de véhicules essence ou diesel, sachant que c'est 99% des véhicules actuellement, ça paraît quand même très impressionnant comme décision. Mais bon, les députés, ils sont élus que pour quelques années, hein, donc en 2040, il y a longtemps qu'ils seront plus là. Donc ils peuvent s'amuser à voter ce qu'ils veulent, et ça permet de revenir en arrière. C'est un article du Monde de 2009, donc il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, on nous disait le gouvernement mise sur 2 millions de voitures électriques en 2020. Et on nous disait d'ailleurs que l'objectif est jugé très raisonnable. Donc ça voulait dire que ça sera sûrement plus, bien plus de 2 millions de voitures électriques. Donc on y est quasiment en 2020, hein, donc, et on est à moins de 100 000 voitures électriques en France. Et encore, souvent, ce sont des voitures achetées par des entreprises, des flottes, hein, comme on dit, c'est La Poste, par exemple, qui en achète pas mal, etc. Donc vous voyez que quand le personnel politique fait des annonces tonitruantes, comme, voilà, la fin des véhicules thermiques en 2040, ben, quand on revient en arrière, on voit que les belles annonces sont souvent pas suivies des faits. On avait aussi Ségolène Royal qui avait décidé qu'il y aurait 7 millions de bornes de recharge d'ici 2030. Alors pourquoi des bornes, tant de bornes de recharge? Parce que tout simplement, voyant que les ventes de voitures électriques ne décollent pas, les promoteurs de la voiture électrique disaient c'est un vrai problème parce que il n'y a pas de voitures électriques, elles ne se vendent pas parce qu'il n'y a pas de bornes de recharge, et personne ne veut installer des bornes de recharge parce qu'il n'y a pas de voitures électriques. Et donc, ça décolle jamais. Et donc, pour briser ce cercle, cette spirale infernale, Ségolène est arrivée en disant, on va installer des bornes de recharge partout, et à ce moment-là, évidemment, ben, les gens n'auront plus peur de tomber en panne sèche d'électricité, et ils achèteront des voitures électriques, et ça sera enfin le décollage. Petit problème, quand même, une borne de recharge, c'est environ 10 000 euros. Ça veut dire qu'il faut trouver 70 milliards pour installer 7 millions de bornes de recharge. À une époque où les États et les entreprises ont les caisses vides, on se demande bien où on va trouver 70 milliards. Mais bon, ça coûte rien, par contre, de faire des belles annonces, comme l'a fait Ségolène. Et puis surtout, il y a un autre problème, il n'y a pas que le problème financier, il y a un problème technique de production d'électricité. C'est que si vous voulez recharger, vous pouvez recharger votre voiture électrique sur le secteur, sur une prise ordinaire, là, par exemple, vous tirez un fil jusqu'à votre voiture, et vous pouvez la recharger, mais ça va vous prendre 24 heures ou plus. Donc il faut des bornes spéciales de recharge qui peuvent recharger entre 4, 5, 6 heures. Donc là, c'est déjà moins long, mais enfin, bon, si vous allez faire vos courses et que vous devez attendre 4 heures pour repartir chez vous, c'est un peu gênant. Et puis il y a des bornes de recharge ultra rapides qui peuvent recharger les 2 tiers de votre batterie en 1 heure ou 3 quarts d'heure. Le problème, c'est que ces bornes-là, elles consomment autant qu'un quartier entier de maisons pour l'électricité. Et donc, ça veut dire que si vous avez plusieurs bornes de recharge rapide dans un quartier ou dans une commune, si tout le monde, s'il y a plusieurs voitures qui se branchent pour charger, tout saute, tout s'arrête. Donc, le réseau n'est absolument pas dimensionné pour avoir des centaines de milliers ou encore moins des millions de bornes de recharge rapide. Donc, on voit quand même que on nous incite à acheter des voitures électriques, mais sans pouvoir nous assurer que ça sera utilisable correctement dans notre vie quotidienne. Mais, dans tout ça, la question quand même la plus importante, c'est bien la raison pour laquelle on nous dit qu'il faut absolument acheter des voitures électriques, c'est que elle est supposée, cette voiture, protéger l'environnement, réduire les émissions de CO2. On nous parle de voitures propres. Et la question, je l'ai trouvée, vous voyez, sur Internet. Je n'ai même pas eu besoin de saisir la question. Elle est déjà là. La voiture électrique est-elle vraiment propre? Et alors déjà, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'une voiture propre? Bonne question. Alors j'ai mené l'enquête, j'ai trouvé plusieurs pistes. La première, c'est ça. Donc vous pouvez avoir une voiture propre comme ça. Alors c'est une boutade évidemment, puisque quand on nous parle de voiture propre, c'est une voiture qui n'a pas d'impact sur l'environnement, voire qui protège la planète, qui va nous sauver. Voilà, donc rappelez-vous la propagande, hein. Zéro CO2, pas d'émission de CO2. Donc évidemment, ça c'est bon pour la planète, c'est bon contre le réchauffement climatique. Et dès que vous avez des innovations comme ça qui vont nous sauver tous, eh bien, il y a toujours des grincheux qui arrivent, des gens jamais contents, des ce qu'on appelle les anti-tout, contre tout. Et là, voilà, je vous renvoie vers un excellent article publié dans Le Monde, donc en octobre 2015, donc émission de CO2, l'impasse de la voiture électrique. Et quand une voiture est dans une impasse, ben évidemment, c'est un vrai problème. Donc ça veut bien dire que, selon l'auteur, qui est donc moi-même, donc c'est pour ça que je vous renvoie vers cet excellent article, eh bien, la voiture électrique ne permettrait pas de réduire les émissions de CO2. Alors ça peut être très surprenant pour quelqu'un qui ne s'est pas plongé vraiment de près dans la question, puisque la voiture électrique, elle n'a pas de pot d'échappement. Quand elle roule, elle émet rien, donc elle n'émet pas de CO2. Donc comment on peut avoir des oseaux comme moi qui viennent dire que la voiture électrique n'est pas bonne pour réduire les émissions de CO2? Alors, eh bien, écoutez, toujours cette fameuse statistique qu'on peut trouver, hein, et donc voilà l'impact des voitures électriques sur les émissions de CO2. Et donc vous avez des pays là où c'est en vert, pays où la voiture électrique réduit les émissions de CO2. Vous voyez, en Norvège, par exemple, là, ça réduit de manière importante les émissions de CO2. Pourquoi ? Parce qu'en Norvège, il y a un certain nombre de voitures électriques et surtout, la quasi-totalité de l'électricité est renouvelable. C'est principalement de l'hydroélectricité. Donc, alors, on pourrait en rediscuter très longuement aussi de l'hydroélectricité, parce que quand vous avez des petits barrages, on peut à peu près considérer que c'est une production écologique. Si on parle par exemple du barrage des Trois Gorges en Chine, c'est l'équivalent de 20 réacteurs nucléaires qui a permis de noyer une région entière avec une retenue d'eau absolument pharaonique qui est d'ailleurs et probablement à la cause de séismes, puisqu'elle pèse tellement sur la croûte terrestre qu'elle cause des dommages dramatiques. Et puis des régions entières ont été inondées, y compris des forêts, etc. Et tout ça évidemment fermente sous l'eau, et puis il y a des bulles qui remontent et ça dégage des quantités absolument astronomiques de CO2, de méthane et autres qui sont des gaz à effet de serre. Donc on peut voir que lorsqu'on entre dans la démesure, même l'hydroélectricité peut être extrêmement émettrice de CO2. Mais a priori en Norvège c'est pas trop le cas, et donc d'après ce qu'on nous dit, en Norvège, avoir des voitures électriques permet de réduire les émissions de CO2. Un petit peu en France aussi, parce que l'électricité est principalement nucléaire, donc elle est propre, paraît-il. Le nucléaire, c'est très écolo, comme chacun sait. En tout cas, bon, il y a les déchets radioactifs, les risques d'accident, etc. Mais c'est vrai que le nucléaire émet peu de CO2, et donc comme 80% de l'électricité nucléaire en France... de l'électricité en France est nucléaire, et bien dans ce cas, la voiture électrique rechargée au nucléaire, elle émet moins de CO2. Donc, bon. Mais, lorsqu'on regarde de l'autre côté, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, eh bien, la voiture électrique, au contraire, fait partie des pays où la voiture électrique augmente les émissions de CO2. Et en Chine, alors là, vraiment, de manière extrêmement importante, puisque la quasi-totalité, l'immense majorité de l'électricité chinoise est produite par des centrales au charbon. Donc là, la voiture électrique émet énormément de CO2 en Chine, un peu moins aux États-Unis, mais quand même. Et malheureusement, pour ceux qui veulent sauver la planète avec les voitures électriques, eh bien, vous voyez les ventes de voitures électriques, eh bien, il y en a énormément en Chine et aux États-Unis. Donc les deux pays où vraiment ça augmente massivement les émissions de CO2. Donc globalement, d'ores et déjà, on peut voir que la voiture électrique, parce qu'il n'y a pas que juste la France, quoi. C'est pas en regardant juste la France qu'on peut avoir une idée de l'impact d'une technologie, c'est sur toute la planète, puisque rappelez-vous, le réchauffement climatique, le CO2, il part dans l'atmosphère et puis il fait tout le tour de la planète, hein. Ça ne s'arrête pas à chaque pays. Donc, vous pouvez voir d'ores et déjà que la voiture électrique est fortement coupable d'émissions de CO2 par rapport à la recharge des batteries. Mais, il y a encore pire. Alors ça, c'est pour vous montrer aussi. Ça, c'est la part. Parce qu'on nous dit, bah, écoutez, puisque la Chine émet tant de CO2 avec sa production d'électricité, elle a qu'à faire plein de centrales nucléaires. Et d'ailleurs, il y a des reportages qui disent qu'ils font plein de centrales nucléaires et donc que, un peu comme en France, leur électricité va émettre moins de CO2. Eh bien, là, pour le moment, la part de l'électricité nucléaire en Chine, c'est 4% de l'électricité chinoise. Tout le reste, c'est... Alors, il devrait y avoir ça à peu près de...
de renouvelables, et quasiment tout le reste, c'est du charbon. Et il y a 46 réacteurs en service en Chine, et il y en a une dizaine en construction. Donc ils ont fait un gros effort financier pour faire quelques dizaines de réacteurs, mais il va y en avoir moins maintenant. Donc ceux qui espèrent que la part du nucléaire va augmenter de manière extraordinaire et permettre de faire que l'électricité chinoise émette peu de CO2, c'est faux. Quand bien même ça serait le cas, ça émettrait alors énormément de gaz, de déchets radioactifs et autres tares du nucléaire. Mais en tout cas, pour le CO2, c'est pas la peine de compter sur le nucléaire. Donc ce qui est certain, c'est qu'on va garder ça là, c'est-à-dire pour les voitures, la majeure partie des voitures électriques qui sont en Chine, ça va être énormément d'émissions de CO2. Voilà. Et donc du coup, un peu à la suite de l'article que j'avais fait passer dans Le Monde, il y a eu pas mal de reportages, là c'est La Tribune, et en particulier une étude de l'ADEME. Alors ça c'est très important aussi, il n'y a pas, comme je vous disais, que la question de l'électricité qu'on utilise, il y a aussi la fabrication de la voiture électrique, et en particulier la fabrication des batteries. Parce que, bon, vous avez une batterie dans votre voiture essence ou diesel, mais c'est une petite batterie comme ça, mais les batteries des voitures électriques sont gigantesques. Et pour les fabriquer, il y a besoin de matières comme le lithium, le graphite, le cobalt. Et la fabrication, tout le processus industriel de fabrication des batteries, de ces batteries, est extrêmement émetteur de CO2, à tel point que l'Agence pour la maîtrise de l'énergie a calculé qu'il fallait rouler en voiture électrique de 50, suivant les modèles et les circonstances, entre 50 000 à 100 000 km, pour pouvoir commencer à être moins émetteur de CO2 que si vous aviez acheté une voiture à essence. Et comme on sait que les trajets en voiture électrique sont souvent très courts, c'est 2-3 km par jour souvent, enfin il est très probable qu'un propriétaire de voiture électrique arrivera à peine, voire même pas, aux fameux 100 000 km avant de changer de voiture, ce qui fait qu'il aura été fortement émetteur de CO2. Et le pire, c'est que tout ce CO2 émis donc lors de la fabrication des batteries, eh bien, il est émis avant même que la voiture électrique n'ait roulé un centimètre. Donc tout le CO2 en question, l'équivalent de c'est combien, de 10 à 15 ans d'utilisation d'une voiture essence, tout ce CO2 est émis tout de suite dans l'atmosphère et fait son effet de serre avant même que la voiture électrique ait commencé à rouler. Donc effectivement, lorsqu'elle roule, elle n'a pas de pot d'échappement, elle n'émet pas de CO2, mais le mal a été fait avant, et massivement. Voilà. Et en plus, il n'y a pas que le CO2 dans la vie, et donc la pollution des voitures électriques peut venir d'autres biais. Alors, là, ça concerne toutes les voitures, électriques ou pas, électriques, essence ou diesel. C'est un article de Science et Vie qui explique que là, pour les particules fines, donc vous avez la problématique des émissions de CO2, mais vous avez aussi les fameuses particules fines qui sortent en particulier des pots d'échappement et de diesel en particulier, et qui vont dans nos poumons, dans les poumons de nos enfants. Eh bien, on apprend par des études très précises que il n'y a pas que les pots d'échappement qui émettent des particules fines, mais aussi les pneus de votre voiture, le goudron lorsque votre voiture roule dessus, et puis même les plaquettes de frein lorsque vous freinez. Donc la voiture électrique, elle est aussi émettrice de particules fines. Alors moins évidemment que l'équivalent en diesel, puisque elle a des pneus, elle roule sur le goudron, elle a des plaquettes de frein et elle a un pot d'échappement. Donc là, c'est clair que la voiture diesel ou essence est pire que la voiture électrique. Mais la voiture électrique, elle aussi, émet des particules fines qui vont mettre notre santé en danger par tous les biais qui sont évoqués dans ces études. Donc on voit que la voiture électrique, elle est déjà très mauvaise par rapport aux émissions de CO2, et elle est aussi mauvaise, même si c'est pire avec la voiture diesel, elle est aussi très mauvaise pour nous par rapport aux émissions de particules. Mais c'est pas tout. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a besoin, pour fabriquer les batteries des voitures électriques, de quantités très importantes de certaines matières ou produits, et donc en particulier du lithium. Et donc vous voyez ici un triangle dans les Andes, Bolivie, Chili, Argentine, à cheval sur ces trois pays. Et bien dans cette région vivaient paisiblement depuis des millénaires des populations d'Indiens dans des Andes, paisibles, qui gênaient personne et que personne ne gênait parce qu'ils sont en grande altitude, dans des endroits qui n'intéressaient personne. Et depuis quelques années,
des entreprises ont débarqué en leur disant « Les Indiens, là, vous dégagez maintenant. Bon, on est là depuis 10 000 ans, mais ça fait rien, vous partez quand même. Pourquoi ? Parce que vous êtes sur les plus grosses réserves de lithium de la planète. » Et les urbains privilégiés occidentaux et américains ont besoin de, on a besoin du lithium pour qu'ils puissent rouler, parader dans les centres urbains en voiture électrique en prétendant protéger la planète. Et donc, on ouvre dans les Andes des mines de lithium qui ont des conséquences environnementales, sociales déjà, puisqu'il y a du déplacement, de la déportation de population, mais aussi des conséquences environnementales absolument dramatiques. Alors là, ça a l'air joli comme ça, mais c'est des exploitations de lithium. Et donc, vous voyez, c'est National Geographic, hein, donc le média, un journal très, très connu et très sérieux, réputé, donc, qui fait un reportage sur en Bolivie, l'extraction du lithium menace le plus grand désert de sel du monde. Donc, ce sont des exploitations qui causent des dommages environnementaux absolument effroyables. Et puis, il n'y a pas que le lithium, hein, donc on voit le lithium dans les Andes, mais aussi il y a du cobalt beaucoup. Et donc, il est en particulier extrait au Congo et dans des conditions littéralement moyenâgeuses. Hein. Il y a parfois eu des reportages dans les journaux télévisés, on a pu le voir. Hein. Ça concerne d'ailleurs aussi les batteries de nos smartphones. Alors en moins grande quantité, puisque les batteries des voitures électriques, c'est vraiment énorme, mais les smartphones sont nombreux. Et donc, pour tout ça, eh bien, on prend du cobalt en exploitant les populations de manière absolument dramatique, en les contaminant, en leur causant des maladies absolument effroyables et en causant à l'environnement des dommages terribles. Et puis, il y a aussi du graphite dans les batteries des voitures électriques. Et la filière graphite, elle se trouve en particulier en Chine. Et il y a eu un reportage très bien fait qui est passé à Envoyé Spécial, donc à 20h50 sur France 2, sur la voiture électrique, hein, où on parlait justement d'un certain nombre de problématiques de la voiture électrique. Et ils sont allés donc évidemment filmer les mines de lithium dans les Andes, mais aussi la production de graphite en Chine. Et je me souviens en particulier d'un passage où l'équipe de télé avait, à force d'enquête, et puis vous savez, la Chine, c'est, on essaie de nous faire oublier parce qu'on a beaucoup de relations commerciales, mais c'est une dictature, hein. Mais ils avaient réussi à arriver à un endroit où il y avait de la production au départ de la filière de graphite. Et donc, ils ont trouvé un chef d'atelier qui leur a dit « Oui, oui, c'est dans ce hangar là-bas, mais moi, j'y rentre absolument pas. Allez-y si vous voulez. » Et pourquoi ? Parce que dans le hangar en question, il y avait des ouvriers qui s'affairaient pour préparer le graphite, et le graphite volait dans les airs, les gars n'avaient même pas de masque, rien, donc ils respiraient à plein poumon le graphite, donc c'est des ouvriers qui après vont mourir quelques temps plus tard, et sans évidemment l'ombre d'une couverture sociale. Et à nouveau, tout ça pour que des urbains privilégiés de pays riches, donc les pays occidentaux, les États-Unis, etc., roulent en voiture électrique en disant « Regardez, qu'est-ce que je protège l'environnement, qu'est-ce que je suis écolo ?» Voilà. Alors, quand vous avez des choses aussi scandaleuses, eh bien, il est important de mener la contre-attaque et d'essayer de dénoncer tout ça. Donc, c'est le fameux combat de David contre Goliath. Hein, ça existe depuis très longtemps. David ne gagne pas souvent, mais ça peut arriver des fois. Alors, et donc, vous voyez, par exemple, ici, c'est un peu petit, mais donc, c'est un article du Monde aussi. Donc, la voiture électrique n'est pas écologique et le jury de déontologie publicitaire qui a été saisi par une petite association, l'Observatoire du nucléaire, dont vous voyez le président devant vous, qui a mené donc une procédure auprès de ce jury de déontologie publicitaire. Alors c'est quoi ? C'est un peu de la justice en toc, c'est une structure qui a été mise en place par l'industrie de la publicité, parce que pendant longtemps il y a eu des publicités tellement mensongères ça faisait scandale. Ils ont été obligés de mettre en place une instance avec il y avait un ancien rédacteur en chef de l'AFP, des experts, etc., pour faire un jury pour étudier les publicités qui peuvent être pointées par des associations, etc., en disant cette publicité est mensongère, elle doit être refusée. Et donc, bien, j'ai saisi ce jury. Alors, comme je vous disais, c'est pas de la vraie justice. Ils peuvent pas prononcer de sanctions pénales contre les publicitaires qui mentent, ou les sociétés qui font des publicités mensongères. Mais par contre, ça a un impact au niveau de l'image. de ces entreprises qui sont toutes concurrentes et qui ont besoin de redorer leur image et de pouvoir prétendre partout qu'elles protègent l'environnement, qu'elles font plein de trucs écolo. Et donc être épinglé par le jury de déontologie publicitaire, c'est très mauvais pour ces entreprises. Et donc du coup notre procédure a eu un effet assez important. Il y a eu beaucoup d'articles. Alors, vous voyez, c'était un article du Canard Enchaîné, hein, voilà, qui disait la bagnole électrique parfaitement verte, eh bien Stéphane Lhomme a vu rouge, l'animateur de l'Observatoire du nucléaire a saisi le jury, etc. Et donc toutes les publicités pour les voitures électriques ont été attaquées. Vous voyez, il y avait aussi des reportages sur France Info, hein, donc suite à cette procédure. Alors voici un certain nombre de réponses qu'on a reçues très vite de la part des constructeurs. Donc vous voyez Renault par exemple qui dit la mention du caractère écologique du véhicule électrique Zoé, la fameuse Zoé de Carlos Ghosn, cette mention du caractère écologique sans aucune relativisation est en effet contraire aux engagements que nous avons pris en signant la charte pour une communication responsable. Renault fait de la communication responsable, semble-t-il. Donc nous avons en conséquence apporté les modifications nécessaires dès réception de votre courrier. Donc il faut croire qu'on leur fait peur, c'est assez incroyable. Citroën, cette page, leur page de publicité pour leur modèle électrique, intègre effectivement des termes contraires à la stratégie nationale du développement durable. J'ai donc fait procéder immédiatement à la correction de cette page dès réception de votre courrier.
Il faut croire vraiment que...
Opel,
la communication sur l'Opel Ampera, donc leur modèle électrique, à laquelle vous vous référez, est en effet inexacte et maladroite. Aussi, à réception de votre courrier, nous l'avons immédiatement corrigé. Bolloré, alors là, je vous ai dit, c'est des méchants Bolloré, hein, c'est très dangereux, donc ils n'ont pas voulu au début changer, et plus tard, ils ont fini par dire que néanmoins, afin de ne pas créer de confusion dans l'esprit du consommateur, nous consentons à retirer le mot propre de notre publicité. Il y a Nissan aussi, etc.
Donc vous voyez que ça quand même fait quand même pas mal de barouf, et donc toutes ces sociétés, ces vendeurs de voitures électriques, donc les plus grands constructeurs, hein, ont été obligés immédiatement de retirer les mots propres, verts, écolo de toutes leurs publicités pour les voitures électriques. Alors, je me fais un peu mousser, mais je suis bien obligé maintenant de vous dire que ça fait très plaisir, mais en réalité, l'impact n'est pas si important que ça. Pourquoi ? Parce que le mal est fait dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire qu'ils ont certes enlevé propre, vert, écolo, mais il leur suffit d'écrire maintenant dans leur publicité 100% électrique pour que les gens imaginent que c'est forcément propre, écolo, quoi. Donc c'est une victoire intéressante, puis ça a fait quand même beaucoup d'articles, hein, comme je vous disais là, c'était quelques exemples, France Info, Le Canard, etc., il y en a eu plein, et pour essayer de faire savoir que la voiture électrique, eh ben, elle est pas cette voiture si écolo qu'on veut bien nous faire croire. Voilà, donc je vous passe rapidement un certain nombre de publicités avant et après, donc on voit que les mentions ont été enlevées, etc. Alors, le cas Bolloré, toujours, hein, c'est le meilleur Bolloré parmi tous nos amis. Et donc, les fameuses Blue Cars, donc les voitures utilisées pour le service en libre partage, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les Autolib à Paris, Blue Cube à Bordeaux, Blue Lee à Lyon, il y a même à Philadelphie, je crois. Et donc, cette voiture a en particulier la caractéristique d'utiliser une batterie spéciale fabriquée par Bolloré dans ses usines en Bretagne, des batteries lithium métal polymère, et ils expliquent que c'est les meilleures batteries possibles, imaginables. Voici donc la fameuse Blue Car de Blue Cube, Autolib. Et donc comme ils refusaient de modifier ses publicités, j'ai déposé une plainte au pénal contre Bolloré, qui a fini donc par consentir à enlever la mention propre. Je passe rapidement sur ça. Vous savez que Bolloré a pris la commande de Canal Plus depuis plus de 3 ou 4 ans, là. Et donc vous avez peut-être entendu dire qu'un certain nombre de reportages et d'émissions déjà qui ont été sucrés parce que ça lui plaisait pas, des reportages censurés. Donc il y avait un reportage sur la voiture électrique, donc censure sur Canal Plus. Bolloré débranche Stéphane Lhomme, qui m'a débranché, il a fait couper au montage des interviews dans lesquelles j'expliquais tous les problèmes causés par ses propres voitures électriques. Donc voilà, ce monsieur est très méchant. Donc du coup, comme il a appelé à me débrancher, moi j'ai appelé à débrancher les voitures électriques en libre service, hein, comme je vous ai montré là, voilà, ici. Hein. Donc c'est sur la voie publique.
Vous avez la borne de rechargement, un fil là qui va jusqu'à la voiture, et bien il suffit de s'approcher, de débrancher, de raccrocher, et vous débranchez la voiture électrique pour protester contre cette méchanceté. Et alors une des caractéristiques à savoir de cette fameuse voiture à batterie lithium métal polymère, c'est qu'en fait elle continue et elle doit continuer à pomper de l'électricité même quand la batterie est pleine. Parce que cette technologie exige que la batterie soit maintenue à 90 degrés de chaleur, sans quoi elle se décharge immédiatement. Donc vous avez une Blue Car, une Blue Cube, une Autolib qui est ramenée par un client, il la met en charge, et lorsqu'elle est en charge, ben, si c'est le soir par exemple, et lorsque la batterie est rechargée, ben, toute la nuit la batterie va continuer à pomper à fond de l'électricité, et c'est ça qu'ils appellent des voitures écolo. Donc j'ai lancé cette campagne de débranchage. Alors ils ont eux-mêmes à ce moment-là déposé une plainte contre moi pour destruction, je crois, de quelque chose de ce genre. Et malheureusement, ils ont fini par assez rapidement par la retirer parce que j'allais gagner parce que je fais aucune destruction. La voiture est en libre service sur la voie publique. Je débranche simplement, je ne casse rien. Et donc j'étais sûr de gagner ce procès. Malheureusement, ils ont dû réfléchir dans un deuxième temps parce que des fois ils réfléchissent que après. Et donc, malheureusement, ils ont retiré la plainte. Voilà, donc rappelez-vous tout ça. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'argent public qui est déversé est complètement injustifié, puisque la seule justification de donner de l'argent public pour acheter une voiture électrique, c'est parce qu'elle est propre et écolo. Or, elle ne l'est pas. Donc, il est inadmissible qu'on vous donne 10 000 euros et que votre région rajoute 5 000 euros avec l'argent public. Il est aussi inadmissible qu'on garde des places de parking spéciales pour les gens qui ont des voitures électriques, puisqu'elles ne sont pas meilleures que les voitures essence ou diesel. Et d'ailleurs, dans la petite ville à côté de chez moi, à Langon, eh bien, il y a deux belles places peintes en vert, parce que c'est écolo, évidemment, pour les voitures électriques avec des bornes de recharge. Et donc, je me gare systématiquement avec ma voiture polluante essence. Je me gare systématiquement sur les places des voitures électriques, même et surtout quand il y a des places libres à côté. Et j'attends désespérément qu'ils me mettent un PV pour pouvoir le contester en justice et dire que c'est totalement injustifié parce que ben, tout ce que je viens de vous expliquer, mais malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de PV. Alors, bon. J'attends que ça tombe. Voilà. Alors, très rapidement, pour finir, les liens de la voiture électrique avec le nucléaire, bon, ben, j'en ai déjà parlé beaucoup, hein, c'est-à-dire que lorsque votre voiture est principalement rechargée avec de l'électricité nucléaire, eh bien, votre voiture est comptable des déchets radioactifs, des pollutions des centrales nucléaires, par les produits radioactifs ou chimiques qui sont rejetés dans l'environnement, les catastrophes nucléaires éventuelles, etc. Donc la voiture électrique nucléaire est une calamité environnementale aussi par cette électricité. Voilà, c'est écrit, donc voilà. Et puis, on a aussi maintenant la voiture électrique qui peut aller à la rescousse, qui pourrait, si elle se développait, on a vu que ce n'était pas le cas au début, aller à la rescousse du nucléaire par le biais du compteur Linky. Alors déjà, pourquoi à la rescousse du nucléaire? C'est qu'il faut savoir que notre parc de réacteurs nucléaires, 58 réacteurs nucléaires en France, dont la France a fait sa grande fierté pendant des décennies. Le problème, c'est que tous ces réacteurs ont été construits très rapidement, en très peu de temps. On nous a dit que c'était un exploit industriel prodigieux, ce qui d'ailleurs, du simple point de vue industriel, était tout à fait vrai. Construire 58 réacteurs nucléaires en très peu de temps, c'était prodigieux, sauf que c'était programmer une situation catastrophique pour 40 ans plus tard, c'est-à-dire à peu près maintenant, c'est-à-dire que tous nos réacteurs arrivent en fin de vie en même temps. Et donc même du point de vue des pro-nucléaires, c'est un vrai problème parce que les réacteurs sont de plus en plus délabrés, il faut les arrêter, les rénover, et puis tôt ou tard, on va les arrêter. On parle beaucoup de la centrale de Fessenheim, qui a dépassé 40 ans maintenant, mais Tricastin, Blayé, Gravelines, etc., ça suit de très près derrière. Et donc, comme en plus EDF est dans un état de finance absolument catastrophique, il n'y a pas d'argent pour rénover ces réacteurs, encore moins pour fabriquer des nouveaux, puisqu'il y en a un seul qui est en chantier. Vous avez certainement entendu parler du fameux réacteur EPR qui va de déconvenu en désastre. Ils ont loupé la cuve, ils ont loupé les soudures, il faut tout reprendre. Là, vous avez peut-être entendu parler des fameuses soudures qu'il va falloir réparer, mais elles sont comprises entre la double enceinte de confinement, entre les deux parois, donc il va falloir détruire une partie du réacteur, il faut faire
des études très très complexes pour essayer d'expliquer à l'autorité de sûreté comment ils vont s'y prendre pour essayer de réparer ces soudures. Ça va prendre encore des années et des années. Donc le réacteur, il devait entrer en service en 2012, hein, en 2019. Et tout ça, ça nous coûte des sommes astronomiques. Et il est très possible maintenant que ce réacteur ne démarre jamais. Donc du coup, rappelez-vous, en France, on disait on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc on a eu l'idée extraordinaire de faire 58 réacteurs nucléaires et des millions de chauffages électriques pour se chauffer peinard, sans dépendre des cours, du gaz, etc. Et donc du coup, eh ben, dès qu'il fait froid, en fait, les millions de chauffages électriques démarrent en même temps, ce qui fait des courbes de consommation, des pointes absolument terrifiantes, qui dépassent totalement les capacités du parc nucléaire, même quand il allait bien. Et maintenant que ce parc nucléaire est de plus en plus délabré, eh bien, ce qui se passe, c'est que la France importe massivement de l'électricité tous les hivers, massivement, hein, faut le savoir. Si on fait le bilan sur 365 jours, la France est exportatrice d'électricité, mais elle exporte surtout au printemps et en automne, massivement, mais maintenant de plus en plus l'été avec tous les climatiseurs, mais surtout l'hiver avec tous les chauffages électriques, la France importe massivement et très cher de l'électricité, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. En hiver, il y a tous ces chauffages électriques français, donc la demande d'électricité sur toute l'Europe est extrêmement importante, les prix s'envolent et on importe très 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 cher l'électricité. Et donc du coup, eh bien, les gens qui veulent développer un parc de voitures électriques ont dans l'idée, s'ils arrivent à en faire des millions, on a tous des voitures électriques, mettons, un peu partout sur tout le territoire, eh bien, par le biais du compteur Linky, qui permet de faire transiter l'électricité dans un sens ou dans l'autre, eh bien, quand vous mettrez votre voiture électrique à recharger, en réalité, le réseau EDF et compagnie viendront puiser dans la batterie de votre voiture électrique de l'électricité pour la renvoyer sur le réseau et essayer de passer ces moments difficiles où la France est obligée d'importer massivement de l'électricité. Donc vous voyez que on vous le dit pas, mais on vous conseille d'acheter une voiture électrique pour aller sauver l'option nucléaire française. Mais alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour le moment, là, ça marche pas parce que les voitures électriques ne se vendent pas. Voilà. Donc, ce que je vous raconte, c'est pas inventé par moi. Hein. Vous voyez, c'est un article de la Commission de régulation de l'énergie, l'autorité sur l'énergie en France. Hein. Et donc, il parle donc de l'utilisation du véhicule électrique comme moyen de stockage de l'électricité. Donc les batteries des voitures électriques doivent servir à stocker de l'électricité pour qu'on vienne nous la prendre. Alors normalement, en cours de nuit, après, une fois qu'ils ont bien pompé l'électricité, on doit pouvoir recharger la batterie, mais c'est pas sûr que le lendemain matin, on en ait assez pour partir. Hein. Voilà, mais avec le compteur Linky, de toute façon, ils n'auront pas, ils ne demanderont pas notre avis, ils iront puiser sans notre aval. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir ni une voiture électrique ni un compteur Linky, encore moins un compteur Linky. Et voilà, d'ores et déjà, on a des publicités de, alors là c'est Total, mais vous trouverez d'autres fournisseurs. Vous possédez un véhicule électrique et un compteur Linky, eh bien formidable, vous avez droit à l'offre de Total mobilité verte, 20% moins cher la nuit, etc., etc. Donc vous voyez que c'est pas des salades que je vous raconte, donc ils sont en train de vraiment de vouloir faire un ensemble avec véhicule électrique, compteur Linky. Voilà, mais comme je vous disais tout à l'heure, donc pour le moment, les ventes de voitures électriques restent très très faibles et on comprend pourquoi, à la fois parce que c'est très cher, parce qu'ils nous racontent des salades sur l'autonomie de ces véhicules et puis sur le côté écolo qui est complètement faux. Alors à nouveau, hein, c'est pas pour réhabiliter la voiture thermique ou essence. Alors là, on va me dire, mais alors qu'est-ce que vous proposez ? Alors, la seule chose que je sais, c'est que pour que tout aille mieux, qu'on protège vraiment la planète, l'environnement, qu'on émette moins de CO2, il faudrait que, globalement, les êtres humains, cette espèce animale qui domine la planète, que cette espèce-là devienne raisonnable, consomme beaucoup moins et arrête de vouloir toujours avoir plus de produits, de matières, de richesses, etc. Donc je pense qu'on n'en est pas encore là, puisque actuellement l'idéologie dominante, c'est qu'au contraire, il faut que tout circule de plus en plus vite et de plus en plus loin, les marchandises, les gens, donc il faut se déplacer partout, faire venir des marchandises de milliers de kilomètres, etc. Et donc et puis il faut être rentable, productif, etc. Et donc en réalité, c'est bien ça le problème, et c'est pas en remplaçant des voitures polluantes essence ou diesel par d'autres voitures polluantes électriques qu'on réglera la question. D'où bien le fait qu'il faille absolument se méfier de cette propagande massive en faveur de la voiture électrique. Et bien voilà, j'ai fait le tour, et donc je crois qu'on peut, je crois, boire un coup et puis discuter après, c'est ça ? Donc j'ai créé l'Observatoire du nucléaire, dont l'objectif est donc de faire de l'information, on va dire même de la contre-information par rapport à celle d'EDF, d'Areva, du gouvernement. Mais l'objectif n'est pas par l'Observatoire du nucléaire, d'organiser des manifestations, d'avoir plein d'adhérents, ça je laisse ça à d'autres associations. C'est vraiment de l'information et aller chercher, on va dire, creuser les informations, chercher des documents. Ça m'a amené parfois à porter des accusations graves, par exemple contre Areva, puisque j'avais pu débusquer que Areva avait acheté un avion tout neuf au président du Niger. Le Niger, c'est là où la France, donc Areva pille l'uranium pour alimenter nos réacteurs nucléaires. Et donc, à savoir quand même que le président du Niger est un ancien cadre d'Areva. Donc, vous voyez, tout ça se passe en famille. Et donc, Areva lui a offert un bel avion tout neuf. Et donc, j'ai accusé Areva de corruption pour continuer à s'accaparer à un tarif dérisoire l'uranium au Niger. Et donc, Areva m'a traîné en justice et ça s'est terminé en cour d'appel à Paris où j'ai gagné.
Le monsieur faisait référence aussi au permafrost. Et le permafrost qui libère des quantités énormes de méthane. Et donc, à l'heure actuelle, c'est un phénomène cumulatif. Il libère énormément de méthane, donc ça réchauffe le permafrost. Donc,
voilà, par exemple, toute la Sibérie, donc une grande partie est complètement congelée depuis des millénaires. Et donc tout ça, en fait, il y a beaucoup de gaz à effet de serre, de méthane qui sont emprisonnés. Et donc, avec les émissions de CO2, il y a le réchauffement climatique qui commence à faire fondre certaines de ces zones, donc qui libère des gaz à effet de serre qui vont aggraver le réchauffement climatique et faire que ça va fondre encore plus. Et donc, c'est une spirale infernale qui, à au bout d'un moment, va être totalement inarrêtable.
Oui, c'est juste quelque chose aussi à propos du nucléaire qu'on ne dit pas, mais c'est que le nucléaire n'est pas neutre en CO2. C'est-à-dire que entre l'extraction, le ramener et tout, le nucléaire consomme, enfin émet du CO2. Et comme on parlait de rendement, le rendement d'une centrale nucléaire, c'est 25% aussi, je crois, par rapport à l'énergie consommée, 75% partant en chaleur. Donc il y a aussi beaucoup de pistes dans ce sens-là. Et en tout cas, dire que le nucléaire n'émet pas de CO2, c'est un mensonge.
Et le photovoltaïque, ça...
C'est vaste.
Oui, vous avez parlé de graphite, de cobalt, de lithium, mais il y a aussi beaucoup d'autres terres rares ou métaux rares qui sont essentiellement gérées par la Chine. Des usines étaient en France, ont été déportées à la Chine pour qu'on externalise la pollution. Donc, par rapport à tous ces métaux qui sont générés uniquement par la Chine, ils sont indispensables pour les voitures, oui, mais aussi pour les éoliennes, pour les panneaux solaires, pour les téléphones. On ne vit plus sans ça. Mais qu'est-ce que vous avez des pistes de solution par rapport à ça?
Ah oui, les voitures autonomes. Alors, c'est toujours pareil. Ça a fait très longtemps que un certain nombre de penseurs et de chercheurs ont réfléchi sur la fuite en avant de la société technologique. On pourrait parler de Jacques Ellul, Simon Charbonneau, Jacques Charbonneau et son fils Simon, qui ont depuis très longtemps ont décrit les ravages de la société technologique et puis cette fuite en avant qui est, on crée de la technologie qui crée énormément de problèmes et alors à ce moment-là on rajoute de la nouvelle technologie qui va tout régler, donc par exemple les compteurs Linky qui sont censés réguler tous les ravages créés par toutes ces consommations, ces appareils innombrables, etc. Et donc c'est une fuite en avant qui est perdue d'avance et qui contribue à toujours augmenter les utilisations de métaux rares, de terres rares, de matières premières, etc. Et donc je ne pense pas que en faisant des voitures autonomes gérées par satellite qui roulent toutes seules, qui sont bourrées d'électronique, que on améliore la situation. Je pense loin de là.
Bonsoir.
Bonsoir, merci pour votre exposé. Dans un monde un peu illusoire, si en France les pouvoirs publics décidaient de sortir du nucléaire définitivement, combien de temps cela prendrait pour démanteler les centrales et combien d'années il faudrait compter pour qu'on en arrive totalement? Est-ce que ça, on l'a déjà calculé?
Alors, on peut faire ça très vite en mettant énormément d'argent, des milliards, des dizaines, des centaines de milliards, en recrutant plein de gens, en payant très cher pour qu'ils aient des combinaisons extrêmement étanches et faire en sorte qu'ils puissent faire le démantèlement sans être contaminés. Ça ne se fera jamais comme ça, puisque faire fonctionner une centrale nucléaire pour vendre l'électricité qui en sort, là, il y a plein de gens qui sont intéressés, des PDG, etc. Mais une centrale qui est arrivée en fin de vie et qu'il faut démanteler, c'est-à-dire découper en tout petits morceaux dont la plupart sont extrêmement radioactifs, ça n'intéresse pas grand monde, ça coûte très cher et ça va se passer comme d'habitude au moindre frais. Alors d'abord, ils vont essayer de reporter ça très longtemps. Je crois que pour EDF, ils envisagent maintenant de s'attaquer au démantèlement de la première génération de centrales au-delà de 2100. Ils disent on va laisser refroidir tout ça, donc évidemment tous les dirigeants seront il y a longtemps qu'ils seront morts et enterrés, donc on pourra plus venir leur botter les fesses. Et puis ici, des démantèlements qui pourraient être mis en œuvre, ça va se faire au moins 10 ans, avec des gens payés à la fronde, des conditions de travail absolument déplorables, des contaminations, etc. Et donc c'est un calvaire qui attend un peu nous, et puis surtout nos enfants et nos petits-enfants et nos petits-petits-enfants, etc., etc.
On peut aussi donner l'exemple français de Brennilis, qui était une centrale de première génération et qui était de petite dimension par rapport aux centrales de Fessenheim, qui serait la première à être arrêtée. Brennilis, ils ont attendu une dizaine d'années avant de dire qu'ils commençaient à démanteler, mais donc on démantèle la périphérie, et la périphérie est peu radioactive par rapport aux centres. Et donc ils sont arrivés dans la 20e enceinte, et là, bien sûr, lui-même ne peut pas y aller. Ils ont mis en place des robots, donc étudiés spécialement pour ça. Le premier qui est rentré est mort au bout de 20 minutes. Voilà. Donc ça explique bien qu'on n'est pas encore du réacteur, quand même, de Brennilis, arrêté depuis plus de 10 ans.
Ça fait 35 ans qu'elle est arrêtée. Elle a été arrêtée en 85. Et c'est un tout petit réacteur de mémoire, c'est de puissance de 300 mégawatts. Les réacteurs qu'on a en France, c'est 900 pour un certain nombre, 1300, 1450. Vous voyez, donc le Brennilis, c'est un tout petit truc. Et il est arrêté depuis 35 ans. Et alors, il démantèle très facilement les bureaux qui sont à l'extérieur, le parking, etc. Mais dès qu'on s'approche de la zone les plus radioactives, alors là, ça prend tellement de temps que ça fait 35 ans qu'ils sont dessus. Et alors, les budgets ont explosé, ont été multipliés par 20 ou plus. Et donc, imaginez ce qui va se passer pour démanteler 58 très gros réacteurs, alors que déjà, c'est un désastre pour démanteler un tout petit réacteur.
Et il me semble me souvenir aussi qu'il y avait un petit détail financier, c'est qu'au départ, dès la construction des réacteurs, il était prévu qu'EDF fasse des provisions pour effectivement démanteler ces centrales. Donc ces provisions ont été faites très symboliquement, mais ont beaucoup participé, comme c'était une provision financière, à des appétits quand il s'agit de privatiser des filiales d'EDF. Et donc là maintenant, programme futur, on est en train de vouloir renationaliser tout ce qui va coûter cher et qui ne rapportera pas. Et c'est donc, comme d'habitude, privatiser les bénéfices et nationaliser les pertes.
Alors effectivement, pour l'argent du démantèlement, il a été réclamé corps et à cri et événement, que l'argent soit mis dans ce qu'on appelle un fonds dédié, c'est-à-dire, on va dire, une grosse tirelire dans laquelle un pourcentage est pris, par exemple, sur les ventes d'électricité, et puis la tirelire se remplit, elle est confiée, par exemple, à la Caisse des dépôts et consignations, donc c'est de l'argent qui existe. Évidemment, EDF s'est totalement opposé à ça. Ils ont dit, on budgète le démantèlement dans notre budget global. L'argent existe, on le retrouvera le moment venu. Et donc, on va le trouver un budget d'EDF qui est déficitaire de maintenant, je pense qu'on doit être à 30 ou 40 milliards de déficit, et donc c'est dans ce déficit que se trouve l'argent du démantèlement. Donc autant vous dire qu'il n'existe pas. Que je vais montrer tout à l'heure, en vert, la part du nucléaire dans l'électricité chinoise, c'est-à-dire 4%. Et ils ont fait déjà le plus gros effort sur le nucléaire. Ils ont 46 réacteurs en service, il y en a encore une dizaine en chantier. Et donc ça va pas augmenter beaucoup plus que ça. Donc,
en fait, qu'est-ce que vous avez
fait ? Tout simplement par leurs prévisions industrielles.
Je m'excuse de vous couper. Et vous avez vu l'Allemagne, ce qui s'est passé ici.
Alors, donc,
Madame Merkel a voulu supprimer, je ne sais pas combien de centrales. Il balance sur du charbon ou l'autre, il balance le soir, c'est incroyable.
Donc, vous pouvez promouvoir le nucléaire si vous voulez. La part du nucléaire dans l'électricité mondiale était de 17% en 2001, elle est de 10% aujourd'hui. C'est-à-dire, la courbe, elle est comme ça. Ce n'est pas du tout dû aux antinucléaires, toutes les manifestations antinucléaires. Ont eu un impact à peu près nul sur le cours des événements. C'est tout simplement parce que les industriels et les États ont constaté que la filière nucléaire était ruineuse et que vous avez à peu près 400 réacteurs en service sur la planète. Ils ont commencé à fermer de manière très rapide maintenant. Et aux États-Unis, ils étaient à 105. Maintenant, il y en a plus d'une dizaine qui ont fermé. Ils sont passés en dessous de 100. Et donc, en fait, la plupart des réacteurs en service sur la planète sont très anciens, de ces 400 réacteurs. Et donc, le processus de fermeture va être extrêmement rapide maintenant. Et donc, la part du nucléaire dans l'électricité mondiale, donc, qui était de 17% en 2001, 10% à peu près aujourd'hui, et va maintenant continuer à décliner, et à nouveau, pas à cause des antinucléaires, tout simplement parce que les industriels préfèrent fermer les réacteurs. Il y a beaucoup de réacteurs aux États-Unis qui ont obtenu une autorisation de fonctionnement supplémentaire de 10 ou 20 ans, et ce sont des procédures très longues, et les industriels, après avoir obtenu cette autorisation, ils ont dit, bon, merci, mais en fait, on ne prend pas, on ferme, parce que ça coûte trop cher, les réacteurs, une fois qu'ils étaient payés, devaient produire une électricité à un tarif très faible, et en fait, c'est le contraire qui se produit, ils sont obligés de rénover les réacteurs avec des processus tellement chers que le prix de l'électricité nucléaire s'envole, et donc en fait, la part du nucléaire va continuer à décliner, c'est 2% de la consommation mondiale d'énergie, c'est-à-dire infime, c'est-à-dire que le nucléaire, c'est des quantités, des problèmes absolument gigantesques, pour une contribution infinitésimale à la part de à la marge économique de la planète, et une contribution qui ne va cesser de diminuer. Donc l'avenir du nucléaire, c'est les déchets radioactifs, les 400 centrales à démanteler, mais c'est absolument pas sur le plan industriel. La part du nucléaire n'augmentera plus et va continuer à décliner peu à peu jusqu'à atteindre zéro dans quelques dizaines d'années. Mais les problèmes, eux, vont rester des centaines de millions d'années. Ah mais le charbon, c'est une calamité. Je suis pas en train de vous faire la promotion du nucléaire, j'ai en train de vous dire que le nucléaire ne remplacera pas le charbon. Parce que le nucléaire est en train de s'effondrer. Donc le charbon, lui, malheureusement, il y en a des quantités astronomiques sur la planète. On nous parle de la fin des énergies carbonées, la fin du pétrole, la fin du charbon. Or, ils s'ouvrent continuellement, tout le temps, des nouveaux gisements de charbon, de gaz, de pétrole, et y compris la France qui a essayé d'ouvrir des champs de pétrole sous-marin au large de l'Amérique du Sud, etc. Donc, en fait, tous les discours qu'on nous dit sur la fin des énergies carbonées, c'est complètement du pipeau. On ouvre aussi des gisements en Arctique, autour du cercle polaire, etc. Donc, à nouveau, les êtres humains sont avides d'énergie, et les énergies les plus simples à utiliser, c'est les énergies carbonées. Il suffit de creuser et de mettre le pétrole dans des bidons et de le transporter. C'est très facile, hein. C'est comme ça que ça fonctionne depuis des décennies, et je vous fais pas la promotion de ces énergies. Je vous explique que quand on nous dit qu'on va se passer... que c'est la fin pour bientôt des énergies carbonées, je demande à voir, c'est 80% de la consommation mondiale d'énergie, et on continue à en ouvrir tout le temps de nouveaux gisements. Donc on se moque de nous, tout simplement.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est là le drame, parce que le nucléaire, je ne vais pas faire un l'écologie, même si je rentre tout à fait d'accord avec vous, mais le véritable drame aujourd'hui dans la planète, ce sont les personnes.
C'est pas le drame de la planète, c'est le drame de l'humain.
Oui, la planète, qu'elle soit entourée de plein de gaz de CO2, elle s'en moque complètement. C'est plutôt effectivement les êtres vivants sur cette planète qui sont mis en danger par toutes ces émissions, mais aussi par les catastrophes nucléaires. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de classement à établir sur les pires dangers. Je crois que les gens qui vivent au Japon, à des centaines de kilomètres autour de Fukushima, ils sont peut-être d'un avis que le nucléaire, c'est quand même pas une bonne chose. Et pas mieux que les gaz à effet de serre. Hein. Donc voilà, on est engagé dans une spirale infernale. À nouveau, comme je dis, j'en ai discuté à la pause avec une dame. Moi, j'ai que ça à dire, c'est qu'il faudrait que nous soyons tous, nous, les êtres humains sur la planète, raisonnables, qu'on consomme beaucoup moins, qu'on soit sobre. Et je crois que c'est le moment n'est pour le moment pas encore venu.
Une question de très courte qui demande, qui donnera une réponse.
Alors pour une énergie, donc le nucléaire qui produit 2% de la consommation mondiale d'énergie, il y a encore de l'uranium pour longtemps. Si on construisait tout d'un coup plein de réacteurs nucléaires pour faire augmenter la part du nucléaire en prétendant que c'est une énergie propre, eh ben, à ce moment-là, il y aurait de l'uranium que pour quelques années. Donc en fait, le nucléaire, soit il va vivoter et décroître très vite, soit on fait plein de réacteurs et il va s'arrêter très vite à ce moment-là parce qu'il n'y aura plus d'uranium. Donc il n'y a strictement aucun avenir par l'option nucléaire.